Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pour la première fois, une aide-soignante travaillant en EHPAD est décédée du coronavirus.
Elle avait 48 ans, 3 enfants. Elle était employée dans la maison de retraite La Filature à Mulhouse. Plus de 40% des EHPAD sont aujourd'hui touchés avec au moins un cas signalé chez les résidents. Mais parfois, les familles ne sont pas au courant. C'est le cas de Laura, sa grand-mère à 86 ans. Elle affirme avoir appris presque par hasard qu'elle avait été testée positive.
On l'a appris de façon assez abrupte, je ne vous le cache pas. Mardi dernier, on a eu quelqu'un à l'étage, mais qui nous a annoncé assez froidement que de toute façon, elle n'était pas bien depuis lundi et qu'elle avait de la fièvre. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de protocole, d'annonce, de communication avec les familles. Et malgré ce que dit la direction, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des mesures. On nous parle d'un service où on aurait réuni les malades du Covid. Moi, ma grand-mère, elle n'a jamais été déplacée de sa chambre qu'elle partage avec une autre résidente. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des difficultés aussi de place, ou je sais pas, peut-être que ça a été fait au début. Moi, j'ai l'impression que le virus, c'est une fatalité. Il circule librement dans les couloirs et on peut rien faire.
Laura, dont la grand-mère réside à l'EHPAD de la Fondation Rothschild à Paris, elle répondait à Nicolas Burnand.
Et nous serons à 8h20 avec la directrice générale de la Fondation, Lucille Rosanne Mercier.
Et tous les soirs à 20h, vous êtes nombreux à les applaudir à vos fenêtres. Emmanuel Macron attendra d'ailleurs quelques minutes avant de s'exprimer lundi soir à la télévision. Le temps de laisser passer cet hommage quotidien aux soignants, car c'est d'eux qu'il s'agit. On évoquait cette aide-soignante morte du coronavirus à Mulhouse. Ces professionnels et aussi tous ces volontaires savent qu'ils se mettent en danger. On va prendre des nouvelles de Charlotte Lacroix, ce médecin réanimateur du Vaucluse. Elle était venue prêter main forte en Seine-Saint-Denis. Elle vient de rentrer chez elle et elle raconte ce qu'elle a vu à Hugo Hamelin.
Déjà, c'est des gens qui sont très jeunes. On a une moyenne d'âge, on va dire, de 50 ans. L'évolution est un peu en dentille. Il y a des jours, ils vont bien. Le lendemain, il va beaucoup moins bien. C'est un virus qui atteint les gens très jeunes. C'est là que c'est difficile pour nous. On se dit, en fait, je pourrais être à sa place dans le lit parce que c'est un jeune qui a pas de problème de santé, qui est pas obèse. Pourtant, il est en réanimation. Le plus compliqué, c'est de donner des nouvelles à la famille, je trouve. On leur dit bien, aujourd'hui, ça va, on verra demain. Dans le service ici en réanimation, on a décidé que les patients dont on savait que le pronostic serait très défavorable, les familles viennent les voir une dernière fois pour pas qu'ils meurent non plus tout seuls. J'espère ne pas avoir chopé le virus, je fais très très attention pour ça. J'ai dit aux équipes, tenez-moi au courant parce que potentiellement je serais prête à revenir vous aider.
Elle est prête à revenir en région parisienne, aider ses collègues soignants. Charlotte Lacroix, médecin réanimateur du Vaucluse, elle répondait à Hugo Hamelin.
RTL 8h03, on le disait, Emmanuel Macron prendra donc la parole lundi soir.
Quatrième prise de parole depuis le 12 mars, le chef de l'État devrait être plus précis sur l'issue du confinement. Le gouvernement étudie en ce moment la possibilité de tracer les contacts des uns et des autres à la sortie de ce confinement pour voir si on est susceptible ou non d'avoir contracté le virus. Cela fonctionnerait sur la base du volontariat, mais l'idée divise jusque dans la majorité. Guillaume Chiche est député LREM des Deux-Sèvres, il n'en veut pas.
Je crois qu'en la matière, il n'existe pas de volontariat. En période de guerre, en période de crise sanitaire, où chacun de nous a peur pour sa santé, si les institutions, si les responsables politiques vous disent « il faudrait moralement que vous téléchargiez cette application sur votre smartphone », application qui s'appelle « Stop Covid », eh bien, je trouve que ça fait force de consigne ou bien ça fait force de chantage, mais en aucun cas, cela n'est du volontariat. Ce serait sous-entendre que les personnes qui refuseraient de le faire seraient, elles, pour la propagation du virus.
Propos recueillis par William Galibert. Et pourtant, aujourd'hui, avec vos téléphones portables et Internet, tous vos faits et gestes, ou presque, sont tracés. On peut déjà mesurer les effets du confinement au fil des jours grâce à Google, Sinamir, et plus précisément grâce à l'application Google Maps qui va livrer pas mal d'informations au gouvernement.
Alors oui, il suffit pour ça que vous activiez simplement le petit bouton de la géolocalisation sur votre smartphone et même sans rien chercher, on autorise souvent Google à compiler nos trajets anonymement. À partir de ça, d'un simple calcul collectif, le géant américain a comparé les déplacements du mois de janvier, les 15 premiers jours de restrictions fin mars, et là c'est vrai, ressort une carte de France du confinement région par région assez intéressante. Évidemment, les déplacements baissent partout entre 60 et 80%, mais on voit aussi des spécificités selon les destinations, selon les régions. En Occitanie ou en Corse par exemple, les sorties au parc diminuent, mais moins qu'ailleurs. En PACA, on continue d'aller plus à la pharmacie que dans les autres régions. En Île-de-France et dans le Grand Est, les deux plus gros foyers épidémiques, c'est là que les trajets maison-travail ont le plus diminué sur cette première quinzaine. C'est encore plus facile pour Google que pour une borne de péage de savoir comment on se déplace. Des données à disposition de tout le monde et donc aussi du gouvernement.
Explication de Sinamir pour RTL.
8h06 aux États-Unis, conséquence de la crise sanitaire, la campagne des primaires démocrates s'arrête.
Bernie Sanders jette l'éponge. Le candidat le plus à gauche rallie Joe Biden, qu'il qualifie désormais d'homme très respectable. Biden, l'ancien vice-président face à Donald Trump, ce sera donc, sauf surprise, l'affiche de la présidentielle américaine le 3 novembre. Le sursaut de la bourse, toujours aux États-Unis, face à un possible ralentissement de la pandémie. Wall Street a terminé en nette hausse. Le Dow Jones et le Nasdaq ont pris des couleurs. Et puis un chiffre à retenir ce matin, plus d'1,5 million de cas de coronavirus recensés à ce jour dans le monde. Plus d'1,5 million, 192 pays touchés et plus de 87 000 morts.
Enfin, autre conséquence prévisible de l'épidémie, la pauvreté devrait exploser dans le monde entier.
C'est ce que dit ce matin un rapport de l'Oxfam qui estime, bonjour Martial Youm, qui estime qu'un 500 000 de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté.
Et oui, c'est malheureusement assez classique lors des crises économiques. Les premières victimes sont les plus pauvres et les plus fragiles. 6 à 8% de la population mondiale pourrait basculer dans la grande pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 dollars par jour pour vivre. Pour des régions comme l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne ou le Moyen-Orient, on parle d'un recul de 30 ans en termes de niveau de vie. Les femmes risquent aussi de basculer dans la pauvreté plus que les hommes parce qu'elles ont à la base des revenus inférieurs et parce qu'elles souffrent de l'absence de couverture sociale dans beaucoup de pays. Alors Oxfam propose d'effacer le remboursement des dettes de ces pays pauvres cette année et de créer un impôt de solidarité d'urgence qui taxerait les bénéfices extraordinaires des entreprises, les activités qui ont un impact négatif sur l'environnement et les grosses fortunes pour distribuer de l'argent directement aux populations les plus fragiles.
Merci pour toutes ces précisions. Martial Youm, on va à présent évoquer cette évacuation qui tourne mal en Équateur en pleine crise du coronavirus. Les pays sont encore nombreux à rapatrier leurs ressortissants. 170 Français à bord de cet avion d'Air Europa. Il venait de quitter la ville de Quito, direction Paris, mais l'appareil a dû se poser en urgence suite à un problème mécanique et il s'est posé là où il ne fallait pas. Le récit de notre correspondant au Pérou, Éric Sanson.
Un problème de toboggan empêchant la fermeture d'une porte arrière a bloqué l'avion d'Air Europa à Guayaquil, ville qui concentre plus des deux tiers des cas de Covid-19 en Équateur. À bord, quelques 300 touristes européens, dont 170 Français, bloqués dans le pays depuis la suspension des vols à la mi-mars. Après avoir passé plus de 5 heures en salle d'attente, les passagers ont été transférés dans deux hôtels de Guayaquil, une opération moins simple qu'il n'y paraît. L'ambassade de France a en effet dû solliciter l'aide des ministères locaux, des transports et du tourisme pour obtenir des bus, des chauffeurs et trouver des hôtels ouverts dans une ville encore traumatisée par les images de la semaine dernière de dizaines de cadavres abandonnés dans les rues, faute de pouvoir être enterrés à temps.
Le récit d'Éric Sanson. Vous l'avez remarqué, la météo nous nargue en ce moment. Un temps estival s'est installé sur la France. Difficile de rester bloqué entre quatre murs. Dans le Nord, la préfecture vient de valider une nouvelle autorisation de sortie, mais strictement encadrée. L'accès au potager collectif, une bonne occasion de profiter du soleil sans se faire pincer. Franck Hanson à Tourcoing.
Il a ressorti ses bottes et sa bêche. Gino, l'un des fidèles jardiniers du terrain du quartier Brimpin, se presse pour rattraper le temps perdu.
Je retire, disons, les épinards de l'année
cultures
passée,
à planter, avec de nouvelles consignes pour ce retraité d'origine sicilienne.
Il était temps aussi, bon, c'est un bonheur pour tout le monde quand même. Là-bas, j'ai préparé la terre pour faire les semis. Et ici, j'ai préparé pour faire les petits pois et les fèves. Là, j'ai mis mon parc à pommes de terre. Les consignes, c'est que chaque jardinier doit rester à son jardin. C'est vrai qu'ils ne doivent pas se regrouper. Sinon, une seule attestation suffit.
Oui, l'attestation suffit. Bon.
Après une fermeture stricte en début de confinement, le préfet du Nord a assoupli les conditions d'accès à ces parcelles. Des espaces attachés à une tradition sociale, chèrement défendue par Pierre-Bernard Vercouteur de l'association des jardins familiaux de Tourcoing.
On avait des remontées de personnes qui ne comprenaient pas, qui vivaient dans leurs appartements, qui souffraient beaucoup de ne pas pouvoir venir dans leur jardin.
Sous le soleil, Catherine désherbe son terrain, une sortie encadrée qui lui permet de mieux supporter le confinement.
On est à l'air, les parcelles sont grandes. J'étais un petit peu surprise qu'on ne puisse pas s'y rendre. En même temps, ça aide les gens à supporter la difficulté de l'environnement. Et puis, il y a vraiment beaucoup de travail du coup avec le retard.
Ces jardins ouvriers n'ont rien perdu de leur convivialité, mais les retrouvailles à plusieurs, ce sera pour plus tard.
Reportage signé Franck Hanson. Le football football à l'arrêt. Ce matin, dans le journal L'Équipe, le groupe Mediapro se dit prêt à diffuser la fin de la saison de la Ligue 1. On ne sait pas encore quand les matchs pourront reprendre. Mediapro, le prochain diffuseur du foot, qui se dit donc prêt à suppléer Canal et Bein en conflit avec la Ligue.
C'était le journal de Jérôme Florin. Alors bien sûr, le contexte est particulier, mais nous tenions sincèrement à vous dire un grand merci ce matin. Merci pour votre fidélité et merci de votre confiance. Selon le tout dernier sondage Médiamétrie pour la période janvier-mars, RTL atteint son plus haut niveau historique en part d'audience et grâce à vous, notre matinale réalise son meilleur résultat depuis 10 ans. Merci donc à vous tous, RTL plus que jamais à vos côtés. Il a 87 ans aujourd'hui, on va reprendre un petit coup de bébelle.
Vous savez quelle différence y a entre un con et un voleur ?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Il a 87 ans, nous le retrouverons avec l'équipe de Laissez-vous tenter, Stéphane Boutsock, tout à l'heure dès 9h15.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous.
Vie ma vie de confiné. Tous les matins, on fait un tour des réseaux sociaux avec vous, Gauthier Delombugard. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les Français postent de nombreuses vidéos pour nous montrer comment ils occupent leur journée. Les caisses et les malles à déguisement ont été sortis des placards pour des mises en scène plus ou moins abouties d'ailleurs.
Absolument. Et oui. Vous allez vite le comprendre, les internautes adorent s'inventer des personnages.
C'est ça les Français.
Perruque orange fluo, rouge à lèvres pailletées et grosses lunettes rondes. Cette jeune femme nous fait vivre une sorte d'épisode des confessions intimes du confinement.
Non, attends. Autant je vais finir boulimique, alcoolique, encore plus accro à la cigarette, mais avec un gros cul. Ah mais non, c'est déjà comme ça. Oh là là, j'ai flippé. Voilà, ça va mieux quand même.
Cet internaute opte pour la salopette bleue, la casquette rouge et la moustache de Mario.
Vous embêtez comme moi pendant le confinement, jouez avec Mario Kart.
Le héros de Nintendo est assis sur sa tondeuse à gazon, son bolide en quelque sorte, avec son volant relié à la console de jeu pour une partie de Mario Kart.
Alors, jeter les poubelles à la benne, c'est parfois la seule sortie du jour, et certains internautes ont donc lancé un concours de déguisement.
Oui, ce jeune homme a opté pour une superbe robe à paillettes, sûrement empruntée à son épouse. L'étoffe moule subtilement ses poignées d'amour. Et sa barbe se marie à merveille avec la longue perruque brune. Défilé en talons aiguilles et jusqu'au vide ordure. Dans les rues de la capitale, c'est avec un déguisement intégral de dinosaure que cette personne va jeter ses poubelles. Autre tenue pour descendre jusqu'à la benne, masque, tuba, gants en latex, protection maximale contre le virus.
C'est bon, je suis prêt. Go, go, go.
Je touche à rien.
3 points.
Des patients qui attendent.
Humoriste Jérémy Siro a enfilé une blouse blanche et accroché son stéthoscope autour du cou en guise de déguisement.
On passe, c'est mal masqué, mais on peut pas.
Un tube baptisé les mal masqués de la pandémie créole. Se déguiser et chanter, excellent moyen pour occuper ses journées.
Merci Gauthier Delombugard, dans quelques instants, immersion.